Attention, moteur.
Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
Have you ever had a dream yet?
Une chaise longue et un étang avec des canards. C'est con les canards, mais ça fait cossu.
Play it once, Sam. For all time's sake.
Encore? Bah, pas les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois.
Bonsoir à ceux qui nous écoutent en direct, bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast. Vous écoutez CinéZoom, l'émission qui vous parle cinéma. Bienvenue dans cette troisième émission. Salut Pierre.
Bonjour Françoise.
Salut Rémi.
Bonjour Françoise.
Alors c'est une émission très spéciale puisque nous sommes à quelques jours de notre festival du film de Fontenay-le-Comte, un festival très festif qui vous attend. Alors au sommaire aujourd'hui, en première partie, la présentation des grands temps forts du festival. En deuxième partie, un zoom sur trois des films programmés durant ce festival, Festen, Délicatessen et enfin Le silence des agneaux. Bien sûr, nous conclurons par notre quiz habituel. C'est parti. Alors Rémi, dimanche 17 mars, c'est un très grand événement qui débute pour l'association KinoZoom.
Eh bien tout à fait Françoise, et nous serons heureux de retrouver les spectateurs à l'occasion du 12e festival du film de Fontenay-le-Comte qui se tiendra du 17 au 24 mars 2024 au cinéma La Renaissance.
Et cette année, le festival, on peut le dire, se met littéralement à table.
En effet, en vous proposant une sélection de films autour de la gastronomie, un thème remarquable par sa richesse cinématographique, on se met souvent à table au cinéma pour tout un tas de raisons.
Alors, peux-tu nous en dévoiler le menu ?
Bien sûr. Alors, vous retrouverez notamment des films qui ont fait l'actualité récente, tels que La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung, prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes, ou Menu Plaisir, Les Trois Gros, le documentaire fleuve passionnant de Frédéric Wiseman.
Alors nous pourrons également nous délecter de grands classiques, hein, lesquels ?
Eh oui, alors parmi eux, La femme du boulanger de Pagnol, Soleil vert, le film de science-fiction culte de Richard Fletcher, l'incontournable La grande bouffe de Ferreri, La graine et le mulet d'Abdelatif Kechiche, ou encore Le festin de Babette, dont son emblématique actrice, Stéphane Audran, a été choisie pour illustrer l'affiche de cette 12e édition. Il y aura bien d'autres films.
Par ailleurs, nous n'avons pas oublié les amateurs des sensations fortes et ou de fringales d'un autre genre, ils vont être servis.
Oh que oui, hein, avec une soirée à passer aux côtés des zombies de la nuit des morts vivants et de Shaun of the Dead. Et Pierre nous en parlera tout à l'heure.
Bref, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Autour de cette programmation, nous pourrons bien entendu compter sur des rencontres.
En effet, Dominique Pinon viendra présenter Délicatessen et fera profiter nos spectateurs des pages les plus succulentes de l'œuvre de François Rabelais à l'occasion d'une lecture. Laurent Delmas, journaliste et critique de cinéma, sévissant notamment sur les ondes de France Inter, présentera Voici le temps des assassins de Julien Duvivier et participera à une table ronde sur notre thème.
Il ne faut pas oublier deux hommages qui seront rendus à deux grands du cinéma qui ont toujours entretenu un lien fort avec la gastronomie. Qui sont-ils ?
Alors le premier, c'est le gourmet Claude Chabrol, en compagnie de Cécile Mestre-Chabrol, autrice et réalisatrice. Elle a travaillé de nombreuses années aux côtés du cinéaste. L'autre, auquel nous rendrons hommage, c'est le truculent Louis de Funès, en compagnie de Mathieu Jaja, auteur de Louis de Funès, Une traversée du siècle, paru tout récemment. Alors, le génie comique se verra également honoré d'une exposition d'affiches de ses films à la médiathèque Jim Dandurand. Et parlant d'exposition, les visiteurs du cinéma La Renaissance pourront également profiter de clichés de bistrots et de restaurants d'hier à aujourd'hui à Fontenay-le-Comte.
Alors je vous conseille vivement de venir au cinéma, ne serait-ce que pour découvrir cette étonnante expo dans le hall. Vous pourrez même y croiser certainement son auteur, Thierry Delmar. Alors c'est un collectionneur formidable de clichés, de photos, de cartes postales, donnant à voir la ville de Fontenay-le-Comte, telle qu'elle fut par le passé et telle qu'elle est aujourd'hui. Donc venez ne serait-ce que voir cela.
Assurément. Et en tant que festivalier privilégié, vous aurez aussi l'opportunité d'assister à l'avant-première de Sidonie au Japon, d'Élise Gérard, qui sortira en avril dans les salles, avec Isabelle Huppert dans le rôle-titre. Et également Tunnel to Summer, un animé japonais fantastique très attendu, qui lui sortira au mois de juin, mais voilà, que vous pourrez découvrir en avant-première.
d'autres choses encore ?
Alors, c'est difficile d'être exhaustif, mais oui, les spectateurs pourront profiter dans le hall du cinéma d'un espace de rencontre, hein, où se tiendra la librairie du festival proposée par Flore de Florilège. Une large part de la programmation est consacrée au jeune public avec des classiques comme Ratatouille ou Wallace et Gromit ou Pogno sur la falaise. Nous remettons également le couvert pour la 6e année avec la compétition de court-métrage qui récompensera les meilleurs films de différents prix, jury, public et lycéens.
Et bien entendu, nous conclurons ce festival en beauté avec un ciné-concert.
C'est la tradition, en effet. Cette année, ce sera « Ma vache et moi » de Buster Keaton avec une partition composée et interprétée en direct par Adèle et Pascal Piston.
Merci Rémi pour la présentation de ce programme tout à fait alléchant. Et pour terminer cette première partie, Rémi a souhaité donner la parole à la jeunesse. Nous accueillons Félix. Bonjour Félix.
Bonjour.
Alors Félix, tu représentes la classe de première de bac pro Sapat du lycée Bel Air de Fontenay-le-Comte, lycée avec lequel travaille beaucoup Rémi, et ce depuis longtemps. Et ta classe a proposé des animations et créations en lien avec le festival. Peux-tu nous en parler ?
Oui. Alors, nous sommes en première Sapat, comme vous l'avez dit, et nous avons donc comme objectif de rassembler le public et le festival du film. Donc, pour ça, nous avons mis plusieurs projets en place, comme le film Léo avec l'école des Cordeliers, une dégustation de gâteaux avec la Chaumière, un atelier de doublage avec l'IME des Trois Moulins, un freestyle faisant la promotion du festival, à écouter et réécouter, une projection du film Nina et le secret du hérisson au service pédiatrique à l'hôpital de Fontenay-le-Comte.
Très bien, merci Félix. Alors rendez-vous en fin d'émission pour découvrir votre création. Je vous propose maintenant d'enchaîner avec une pause musicale. Alors c'est un standard du groupe The Crystals qu'on trouve dans la bande originale du film de clôture de notre festival. Nous avons choisi en guise de dernier film projeté le dimanche 24 mars à 19h, Les Affranchis de Martin Scorsese. Alors souvenez-vous, Henry Hill conduit sa fiancée au Copacabana et ils font une entrée royale par les cuisines. Long plan séquence, zen. It kissed me. C'est parti.
And I
Alors et maintenant, nous vous proposons une mise en bouche du festival avec un coup de projecteur sur trois films projetés durant le festival. Le premier, c'est le film sélectionné par le Ciné-Club. Il s'agit de Festen, qui sera projeté lundi 18 mars à 20h30. Alors Festen, Pierre, de quoi s'agit-il ?
Eh bien, l'argument de Festen est très classique. En fait, c'est une fête de famille et il y a Elge, le patriarche, hein, le père de famille, qui réunit pour ses 60 ans toute sa famille et tous ses proches. Donc ça se passe dans une grande maison bourgeoise, un espèce de grand manoir, il y a des serviteurs, des cuisiniers, etc. Tout est impeccable pour la fête. Pour la fête, tout le monde arrive, les proches arrivent, on voit Christian qui est l'aîné, le fils aîné, c'est celui qu'on suit, qui arrive à la réunion de famille, il est accueilli, il s'installe. Il ne manque que Linda, la sœur jumelle de Christian, dont on apprend qu'elle s'est suicidée l'année précédente. Il y a une espèce de petite dissonance qui apparaît, une fêlure là. Pendant le repas, Christian est chargé du discours d'usage. Il se lève, il prend la parole et puis je m'arrête là, puisqu'il ne faut absolument rien dire de Festen, hein, qui est un film extrêmement happant. Et c'est surtout un film choc. Hein. On ne ressort pas indemne de Festen, on en sort souvent bouleversé. On n'est pas le même en sortant qu'en entrant, hein, bien souvent.
Pourtant, l'histoire semble donc assez classique et... Qu'est-ce qui, selon toi, rend Festen si marquant ?
Eh bien, il faut dire qu'au-delà du fond, c'est-à-dire au-delà de l'histoire qui est racontée, c'est la forme, c'est la façon dont est racontée l'histoire qui est incroyable. En fait, Vinterberg a choisi de filmer de façon extrêmement radicale en suivant la charte du dogme 95.
Dogme 95, dogme, le mot évoque quelque chose d'assez austère, d'assez rigide. Qu'est-ce que c'est que ce dogme 95 ?
Alors, comme son nom l'indique, ça a été édité en 1995, et c'est un courant cinématographique, en fait, hein, c'est assez rare comme ça, où vous avez deux cinéastes, alors il y a Thomas Vinterberg et Lars von Trier, donc c'est une affaire danoise, qui ont édicté un ensemble de règles, l'idée étant de réagir aux règles scénaristiques des blockbusters hollywoodiens qui, à l'époque déjà et aujourd'hui encore, étaient déversés sur les écrans et qui suivent toujours les mêmes recettes, toujours les mêmes principes, qui sont très formatés. Donc eux, en réaction, ils ont édicté une dizaine de règles. Et si l'on suit ces règles, l'idée est de faire l'opposé du film hollywoodien. Quoi. Voilà. C'est une réaction contre une manière de faire formatée. Et le but est de s'éloigner du côté industriel du cinéma pour retrouver l'essence du cinéma, la substance cinématographique du film. Il y a un côté très pur, hein, dans cette affaire. Voilà. Et donc, c'est très ambitieux aussi. Et les deux réalisateurs ont donc édicté une liste de 10 règles. Et si vous les suivez, eh bien, le film est estampillé Dogme 95.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous énumérer ces 10 règles ?
Bon, alors, il y a très rapidement, hein, y a des règles qui semblent simples, mais en fait, qui sont très contraignantes. Par exemple, le tournage doit être fait sur place, le son doit être en direct, il ne peut pas être rajouté après. Il n'y a pas de musique, par exemple, possible. Si on veut qu'il y ait du piano, il faut qu'il y ait un personnage qui joue du piano, sinon il n'y a pas du tout de musique. La caméra doit être portée à la main. Hein, il n'y a pas de grue, il n'y a pas de chariot, il n'y a pas de travelling, il n'y a rien. Le film doit être en couleur, il n'y a pas d'éclairage rajouté, il n'y a pas de filtre optique, rien du tout. Le film doit se passer ici, là et maintenant, donc il n'y a pas de film d'un autre moment ou un film historique ni rien. C'est un format académique de pellicule, d'ailleurs ils ont eu beaucoup de problèmes parce que très vite le numérique est apparu, donc il a fallu adapter un peu le dogme. Voilà, très vite, voilà l'idée, quoi. Et c'est très contraignant, hein. Par exemple l'idée du tournage sur place, hein, si on a besoin d'un accessoire, on n'a pas le droit d'apporter l'accessoire. Il faut choisir un endroit où l'accessoire est présent. Voilà. Donc y a un côté très jusqu'au boutiste dans leur affaire. Même le réalisateur ne doit pas être crédité. C'est vraiment quelque chose où, comme je disais tout à l'heure, il y a une volonté de pureté absolue et extrêmement jusqu'au boutiste.
Eh bien, en effet, oui, ça semble extrêmement strict. Les deux réalisateurs ont réussi à faire des films qui respectent toutes ces règles, alors ?
Bon, alors, c'est pas si facile. Hein. Comme je disais, suivre exactement les règles, c'est très compliqué. À tel point qu'en fait, il y a assez peu de films qui suivent vraiment, et Vinterberg et Lars von Trier eux-mêmes n'ont fait qu'un film chacun du dogme, et après ils s'en sont éloignés. Aujourd'hui, le dogme, alors ils ont considéré que c'était terminé il y a quelques années, et donc il y a une soixantaine de films qui sont estampillés dogme avec un petit certificat. Bon, il y a beaucoup de films qui sont des petits films en termes de budget, hein, peu méconnus. En fait, il y a surtout deux films, hein. Il y a Festen évidemment, et puis il y a Les Idiots de Lars von Trier. Voilà. Néanmoins, on se rend compte dans Festen qu'à suivre ces règles-là, eh bien, le film a une force de frappe visuelle incroyable.
D'accord. Et donc le dogme, alors, aussitôt créé, a été oublié, même par Vinterberg ou Lars von Trier ?
C'est-à-dire que Ensuite, les films qu'ils ont fait très très vite ne respectaient pas les 10 règles. Ils ont respecté 5, 6, 7, mais jamais 10. Donc ça ne pouvait pas être estampillé Dogme 95. Par exemple, très vite, Lars von Trier a fait Breaking the Waves et clairement, il a fait des plans fixes avec de la musique. Une manière de dire, voyez, je ne suis pas exactement le dogme. Je m'en écarte déjà un tout petit peu.
Breaking the Waves, que personnellement, j'aime beaucoup. Merci Pierre. Alors, en guise de transition avec le second film présenté, écoutons maintenant un morceau. Alors, il est composé par Carlos D'Alesso. Deux amoureux jouent, l'un du violoncelle, l'autre de la scie musicale. Certains auront peut-être reconnu Delicatessen. Delicatessen, me dit-on. Effectivement, oui, c'est un film français. Alors, je vais le prononcer à la française, même si j'ai fait de l'allemand, évidemment. Donc, Delicatessen. C'est un film de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Il est projeté samedi 23 mars à 21h. Et c'est avec Dominique Pinon. Dominique Pinon que nous recevons au Festival Rémy.
Et tout à fait. Hein, c'est un honneur de recevoir cet acteur aussi charismatique hein, qui a été présent dans l'ensemble de la filmographie de Jean-Pierre Jeunet. Dont la première collaboration remonte au court-métrage Foutaise, hein, qui préfigure un peu le fabuleux destin d'Amélie Poulain, si vous pouvez voir ce film. Et vous pourrez donc le rencontrer samedi 23 mars, hein, il ne faudra pas manquer ça, d'autant qu'il vient nous faire une lecture publique des textes de Rabelais, voilà, en plus de la présentation de Delicatessen. Alors je reviens à présent au duo Jeunet-Caro. L'un, Jean-Pierre Jeunet, débute dans la publicité et dans les clips vidéo. Hein. Il a signé des clips pour Julien Clerc ou Étienne Dao notamment. Et l'autre, Marc Caro, vient plutôt de la bande dessinée. Hein. Il publie chez Métal Hurlant, Fluide Glacial ou L'Écho des Savanes. Et son univers, hein, pour le résumer très grossièrement, tire vers le fantastique, hein, avec une esthétique sombre, torturée, un peu trash hein, par moments. Et les deux se rencontrent hein, et télescopent un petit peu leurs deux univers. Et c'est au festival d'Annecy hein, où ils présentent des films, et ils vont s'abreuver de films aussi, qu'ils font connaissance, qu'ils sympathisent et qu'ils vont ainsi, à partir de là, co-réaliser des courts-métrages assez remarquables, hein, L'Évasion, le Manège ou encore le Bunker de la dernière rafale. Et ensuite, ils vont signer ensemble deux longs-métrages, La Cité des Enfants Perdus et avant ça, Délicatessen.
Délicatessen, c'est le premier film de Jean-Pierre Jeunet dont on connaît les succès qui vont suivre, notamment Le fabuleux destin d'Amélie Poulain dont tu viens de parler. Ce sera d'ailleurs un très grand succès en 2001. Alors Pierre, dis-nous de quoi parle ce premier film ?
Eh bien, ce premier film se déroule dans une France très étrange, hein. C'est un univers très apocalyptique. On est dans un espèce de futur qui évoque le passé, on ne sait pas trop, c'est très curieux. On est centré sur un immeuble isolé, dans une espèce de zone en friche dont on ne sort pas et dont on ne sortira pas. Il y a bien quelques nouvelles d'une ville au loin, mais on reste en vase clos. Dans l'immeuble, il y a une boucherie au rez-de-chaussée, avec un boucher qui est très inquiétant, c'est Jean-Claude Dreyfus. Et puis on découvre une espèce de galerie de personnages qui sont tous les locataires, jusqu'à l'arrivée de Louison, donc c'est Dominique Pinon qui sera avec nous. Louison qui est engagé comme homme à tout faire dans l'immeuble.
Et alors, selon toi, qu'a de si particulier Délicatessen ?
Eh bien, comme on l'a dit, hein, la rencontre Caro et Jeunet crée un univers extrêmement original qui se déploie sous nos yeux. Là, c'est très, très imaginatif et tout est différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Je disais, les personnages là sont tous incongrus, comiques, grotesques ou en couleur. Et il n'y a pas donc que les personnages, il y a les décors, il y a le montage, les détails, il y a des espèces d'intrigues secondaires, il y a des jeux de son, des bruitages, une image qui a une coloration à la jaune un peu sépia qui est très particulière.
En effet, donc ça semble un film particulièrement unique. On semble assez loin des films suivants de Jean-Pierre Jeunet.
Alors le ton est plus sombre que les films que Jeunet fera tout seul après, même si le film est truculent, il est un peu sombre, mais il y a des motifs, des idées ou des trouvailles qui annoncent clairement les films suivants. La Cité des Enfants Perdus ou Amélie Poulain sont déjà en filigrane et en pointillé dans le film.
D'accord. Merci Pierre. Nous passons maintenant au dernier coup de projecteur sur un troisième film du festival. Je vous propose tout simplement une immersion totale avec sa bande-annonce.
We're interviewing all the serial killers now in custody for a psychobehavioral profile. Could be a real help in unsolved cases. You spook easily, Starling?
Not yet, sir.
I want you to go after him again today in the asylum.
And who's the subject?
The psychiatrist, Hannibal Lecter.
Hannibal the cannibal.
Busy hunting that new one, Buffalo Bill. What a naughty boy he is. Do you know why he's called Buffalo Bill?
This one likes to skin his humps. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims.
I didn't.
No.
No, you ate yours.
Inside your head.
Certains auront sans doute reconnu Le silence des agneaux. Il faut préciser que c'est un film qui, dans notre programmation, est estampillé ciné en rab. Alors Pierre, il faut absolument que tu nous expliques ce qu'est ciné en rab.
Eh bien, Ciné en Rab, c'est une proposition qui est faite par des lycéens du lycée Rabelais de Fontenay-le-Comte qui font partie d'un club cinéma et ils organisent une projection à peu près tous les deux mois au cinéma. Ils se mettent d'accord sur un film, sur une séance, ils organisent la séance, ils en font la promotion, ils font une affiche, puis ils essayent d'attirer beaucoup de lycéens. Le but, c'est le public que l'on recherche, ce sont des lycéens. Et donc, c'est une affaire qui marche bien. À peu près tous les deux mois, un nouveau film est proposé. Et donc là, vu le thème, à table, très très vite, Le silence des agneaux a été choisi.
D'accord. Alors revenons justement à ce film. C'est un film qui a une terrible réputation.
Oui, bah, c'est un thriller culte, hein, complètement. On connaît l'argument, hein, que je rappelle en quelques mots. Donc il y a un tueur en série qui est insaisissable, et comme les enquêteurs tournent en rond, il décide d'aller interroger le terrible et légendaire maintenant Hannibal Lecter, donc qui est lui-même un psychopathe fou et aussi génial, qu'on surnomme Hannibal le cannibale, parce qu'on se dit que sa perspicacité pourrait peut-être donner un indice ou une piste. Donc on envoie la jeune stagiaire du FBI, Clarice Starling, pour aller l'interroger. Et évidemment, Hannibal a des choses à dire, et évidemment, c'est pas si simple que ça, ce sera pas si simple que ça. Et bien sûr, on le sait, hein, Hannibal Lecter, c'est Anthony Hopkins qui tient le rôle, et Clarice Starling, c'est Jodie Foster. Donc il y a deux acteurs extraordinaires dans ce film.
Et qu'est-ce qui, selon toi, rend le film si terriblement célèbre ?
Oh ben, je pense que le personnage d'Hannibal Lecter est absolument central. Il est devenu même un personnage cardinal dans la légende des méchants du cinéma américain. Anthony Hopkins est absolument magnétique. Il est une figure du mal, en fait. Mais c'est un mal très particulier, puisque c'est un mal avec un M majuscule. C'est un mal qui est raffiné, qui est cultivé, qui est fin, qui est brillant. Et ce personnage d'Hannibal, en fait, dans le cinéma américain, vient répondre et vient compléter l'autre grand personnage de psychopathe que le cinéma américain avait inventé, c'est Norman Bates, de Psychose, hein, chez Hitchcock. Bates avait un côté gendre idéal, au-delà de sa schizophrénie, et là, Hannibal Lecter, lui, a un côté génial, un génie du mal, comme je disais, qui est supérieurement intelligent, qui écrase psychologiquement et intellectuellement ceux qui l'entourent. Il dévore, hein, au moins au figuré, à défaut de pouvoir les déguster réellement, tous ceux avec qui là, il s'entretient. Et bon, pour Anthony Hopkins, c'est le rôle de sa vie, qui est à la fois évidemment une consécration, puis qui est un peu dommage, puisqu'il est souvent réduit à Hannibal Lecter. Alors c'est un acteur qui est très très intéressant, hein, très très riche, un très très grand talent. On a reconnu sa voix extraordinaire dans la bande-annonce. Et il faut noter, parmi donc dans sa filmographie qui est très riche, qu'il a déjà un rôle de schizophrène, qui est pratiquement psychopathe, hein, dans Magic de Richard Attenborough en 1978.
Alors dans ce film, il n'y a pas que Hannibal le cannibale.
Alors voilà, il y a un Hannibal et autour de ça, il y a beaucoup de choses. Il y a une construction qui est très habile puisqu'il y a un jeu du chat et de la souris avec Hannibal le cannibale et Clarice Starling, donc avec Anthony Hopkins et Jodie Foster. Et puis il y a une contradiction entre Hannibal le cannibale et le psychopathe que tout le monde recherche là, qui s'appelle Buffalo Bill. Et Buffalo Bill est l'opposé de Lecter. C'est un marginal, il est recroquevillé dans son délire et dans son obsession. Il crie et il geint, enfin il parle jamais, alors qu'Hannibal, lui, il parle beaucoup. Et il est à l'opposé donc de Lecter. Les deux psychopathes ne se croisent pas, mais Demi, le réalisateur, construit une dynamique autour de ces personnages. Et il crée comme ça une ambiance incroyable, ça marche très très bien.
Alors parle-nous du cannibalisme, on le rencontre si souvent que cela au cinéma.
Eh bien, depuis Hannibal le cannibale, il faut reconnaître que c'est de plus en plus fréquent. Il y a de plus en plus de films, ça c'est curieux, hein, qui évoquent le cannibalisme. Quelques films à la volée comme ça, il y a Bruno Dumont dans Maloute qui en parle, il y a le film Vorace de 1999, il y a Grave de Julia Ducournau en 2016, il y a La Route, il y a The Neon Demon de Winding Refn en 2016 aussi. Donc on a l'impression comme ça que dans des genres, dans des pays différents, il y a pas mal de films qui traitent de ce thème-là. Et puis surtout, évidemment, hein, il y a un genre qui joue avec le cannibalisme, ce sont les films de zombies.
Ah, les zombies. Alors cannibales, zombies... La transition est évidente et explique sans doute la raison pour laquelle, dans notre programmation sur le thème de la nourriture au cinéma, on consacre quand même une soirée entière aux morts vivants. Alors retenez cela, hein, c'est le vendredi soir 22 mars, avec deux films, notamment Shaun of the Dead et le film culte de Romero, La nuit des morts vivants. Car les morts vivants, eh bien, ils passent aussi à table, hein, ils se nourrissent aussi, mais de chair humaine. Alors comment, Pierre, définirais-tu ce qu'est un zombie ?
Alors, il faut d'abord dire que le zombie est un motif assez ancien du cinéma, c'est apparu très tôt, et ça a été remis au goût du jour par La nuit des morts vivants de Romero. Mais en fait, il y a des zombies bien avant, hein, dès les années 30, mais à l'époque, ce sont des morts qui sont envoûtés par un gourou et qui sont réduits en esclavage à la volonté du gourou, quoi. Donc il n'est pas du tout question encore de cannibalisme. C'est notamment le film White Zombie ou Vaudou, hein, de Jacques Tourneur. Là, on est dans les années 30-40.
Mais c'est très loin de l'image des zombies cannibales, ça.
Alors oui, et tout recommence avec George Romero, hein, dans La nuit des morts vivants en 68, où là, ce sont les premiers zombies modernes, c'est-à-dire ce sont des morts qui reviennent à la vie, on ne sait pas trop pourquoi, enfin je ne veux pas trop dire le film, et ils sont effectivement cannibales, c'est-à-dire qu'ils dévorent d'autres personnes, qu'ils contaminent, et c'est mordu, si vous voulez, c'est dévoré, deviennent zombies à leur tour. Et puis au fil du temps, des années, il y a de plus en plus de types de zombies qui se développent, avec des zombies beaucoup plus récents, hein, comme ceux de World War Z, ou 28 jours plus tard, ou... Récemment, il y a Dernier train pour Busan, où c'est encore autre chose. Ce ne sont pas du tout, au sens strict, des morts vivants. Ce sont des personnes qui sont atteintes d'une maladie, qui ont un virus, quelque chose comme ça. Et eux sont ultra agressifs. Ils ont à la fois le côté complètement hébété et déterminé des zombies. Ils courent très très vite et c'est l'enfer, quoi. Donc, depuis La nuit des morts vivants de Romero, donc depuis 50 ans, plus de 50 ans, les zombies errent dans les rues et dévorent à tout va.
D'accord. Donc, ces zombies-là, ce sont juste des personnages hagards qui cherchent à manger les autres.
Alors, c'est pas que ça. Derrière le personnage du zombie, il y a toujours un discours sur la société, en tout cas chez Romero. Chez Romero, le zombie représente, surtout au début, représente les reprouvés, les rejetés de la société. Par exemple, c'est des Noirs, ce sont des SDF, etc. Ce sont ceux qui sont hors du cadre, ceux qui n'ont pas droit au cadre à Hollywood. Eh bien, dans les films de Romero, ils envahissent l'écran. Et c'est ce combat-là, il faut absolument assaillir l'écran. Chez d'autres réalisateurs, je pense chez Jarmusch là, dans Dead Don't Die en 2019, alors le zombie ce n'est pas ça, le zombie c'est l'espèce de consommateur happé et décérébré par la société. On sait que le corps du zombie est toujours détruit, un zombie c'est une espèce de surgissement à l'extérieur du corps, des organes, des viscères. Là. Donc le zombie qui a le corps détruit et dévasté, il symbolise le consommateur dont le cerveau est détruit et dévasté. Dans The Dead Don't Die, les zombies ils ont leur portable allumé à la main et ils cherchent le wifi. Quoi. Donc on voit que c'est une métaphore de la modernité. Les zombies dévorent le corps quand la société moderne dévore l'âme.
Bien. Alors merci Pierre. On passe enfin au dessert, le quiz musical. Pierre, donc, tu dois nous révéler absolument quel était le film génial qui se cachait derrière cette douce musique de Karl Orff.
Eh bien oui, le mois dernier, le quiz musical, donc c'était la musique du Gassenhauer de Karl Orff dans la Ballade sauvage de Terence Malick, un Badlands de 1973.
Bravo gagnant, car il y en a un. Et voici maintenant le quiz musical de cette troisième émission. Alors je vous donne un petit indice. C'est tout simplement la musique de l'un des films absolument incontournables du festival. Allez, je vous révèle le nom du compositeur, c'est Philippe Sard. N'hésitez pas à donner la réponse sur le site de Dig Radio en message privé. Voilà, donc je viens de répéter ce qu'on vient de me souffler. Je ne dois pas oublier surtout de mentionner que CineZoom, ça continue pendant le festival. Nous allons enregistrer des émissions spéciales pendant toute la semaine, alors soit en public, soit en différé, grâce évidemment à la présence de Dig Radio, qu'il faut absolument ici remercier maintenant. Voilà, on va passer à Rémi.
Oui, c'est ça.
Vas-y.
Donc, si vous voulez tout savoir du festival, de sa programmation et des différents événements, eh bien, c'est à retrouver sur le site du festival, festivalfilmfontenay.com, et bien sûr à l'accueil du cinéma Le Renaissance. Si vous souhaitez soutenir l'association Kinozoom qui organise ce festival, je vous invite à vous rendre sur le site internet de Kinozoom ou alors sur Hello Asso, vous tapez Kinozoom et vous pouvez adhérer à l'association et nous soutenir.
Alors maintenant, pour terminer, voici le petit extrait musical composé par Félix et ses camarades. C'était leur façon à eux de rendre gentiment hommage au festival.
Sur la scène du festival à Fontenay, viens voir ce qui a changé. C'est bien plus qu'un ciné. Sur les sièges rouges, viens donc t'installer. Une salle pleine de nouveaux films à savourer.
Redécouvrir des classiques, goûter à l'art, parcourir les saveurs avec ton regard. Le festival du cinéma, c'est pour tous les âges. Du 16 au 24 mars, chaque année on voyage.
Mais ma table, la culture est présente. Venez les jeunes, venez prendre place. Avec acteurs et actrices, il y a de l'ambiance. On sera là, pour vous, on se dépasse.
Sous les projecteurs, l'écran s'illumine encore. Histoire captivante, un voyage qui s'explore. Des rires, des pleurs, des émotions à foison. Le festival du film à Fontenay, une véritable passion.
Bien entendu, nous avons hâte de vous retrouver au 12e festival du film de Fontenay-le-Comte. Alors, c'est du 17 au 24 mars au cinéma Le Renaissance. Ça commence dimanche. À très bientôt aussi sur les ondes de Digue Radio et en avril pour une prochaine émission. Merci Pierre.
Merci Françoise.
Merci Rémi.
Merci Françoise.
À bientôt.
Elle était bien celle-là.